Le rendez-vous.
Plateau 1 avec plutôt plateau littéraire pro-roman avec Philippe Solers, écrivain qui place cette rentrée littéraire 2011 sous le signe de Trésor d'amour, un roman que vous signez chez Gallimard, un roman plus que roman, on reviendra sur cette dénomination, qui met en perspective Solers et Stendhal à travers l'amour-passion qui unit le narrateur Solers à Mina Viscontini, une jeune universitaire italienne, une spécialiste de Stendhal. Particularité de la construction littéraire de ce personnage, son prénom la rapproche d'un personnage féminin stendhalien, Mina de Wengel, et c'est surtout aussi, d'après la construction, la lointaine parente de Mathilde Dembowski qui était le grand amour inabouti de Stendhal. Autrement dit, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le roman viendrait réparer l'échec amoureux de Stendhal. D'ailleurs, Stendhal vient vous en féliciter à la toute fin du livre. Est-ce que la littérature pourrait être ça, c'est-à-dire le lieu même de la réparation ?
Oui, de l'aventure, Philippe qui Solers. N'est pas forcément la même selon le temps où on agit. Stendhal a été un aventurier extraordinaire de sa vie elle-même. Il est passé par des tas de choses. Quand vous êtes, par exemple, dans la retraite de Russie et que vous traversez la Bérézina, que vous êtes un jeune lieutenant, etc., que vous passez à travers des cadavres, cette espèce de désert invraisemblable, glacé, et qu'ensuite vous tombez sur l'illumination de votre vie, c'est-à-dire l'Italie. C'est le premier Français qui commence à comprendre que la France est très en retard par rapport à l'Italie, la peinture, les édifices, la couleur, et puis l'amour. Alors voilà ce qui lui tombe dessus, avec Mathilde Viscontini, qui a épousé un Polonais qui s'appelle Dembowski, etc. Alors ça a donné une sorte de cristallisation, c'est lui qui emploie le mot. C'est pour ça que j'ai été obligé, pour écrire ce livre de façon très précise, de relire le texte de Stendhal qui s'appelle « De l'amour », qu'on ne lira jamais assez avec assez de précision. C'est-à-dire que ça lui ouvre les yeux, les oreilles. L'amour, ça consiste à changer de corps. À avoir un corps en éclosion alors qu'il était fermé. Pour quelqu'un qui sort de la campagne de Russie, croyez-moi, avec Napoléon, c'est quand même extraordinaire. Il se rend compte que l'Italie existe. Et il s'est fait enterrer, comme vous savez, en italien.
En effet, en italien.
Alors qu'il était consul, ça a été une sorte de désertion diplomatique.
Son épitaphe est italien.
Dans la mort. Hein. Donc, cette histoire m'a beaucoup retenu, d'autant plus que ça se passe à Venise. Le personnage féminin habite Venise. Je connais un peu Venise.
Un peu, beaucoup. Oui.
Et donc, tout à coup, j'ai resserré tout ça à partir de Stendhal. C'est-à-dire qu'aussi, je suis allé au roman, parce que c'est Stendhal qui a inventé, à mon avis, les personnages de femmes les plus extraordinaires, les plus nouveaux qu'on ait connus dans la littérature. C'est la liberté même de ces femmes qui m'intéresse. Voilà.
Alors on reste sur Stendhal parce qu'au milieu du roman exactement, vous placez un texte en particulier de Stendhal qui est Les Privilèges, un texte de 1840. Stendhal a 57 ans, il mourra deux ans plus tard. Ouais. C'est un texte plutôt méconnu d'ailleurs, que j'avoue que je n'ai jamais lu. Quelle est la nature exacte de ce texte pour que vous la placiez au centre du roman, comme une sorte de dispositif littéraire.
Oui, absolument. C'est un texte fantastique qui a été publié seulement en 1961. Vous voyez qu'il faut du temps pour que les choses énormes soient connues. Ça s'appelle « Les Privilèges ». C'est un texte qu'il écrit à Rome, 2 ans avant sa mort, et où il se donne, dit-il, un brevet de... Il veut pas dire Dieu, parce qu'il est en mauvais terme avec l'Église française qu'il a connue dans son enfance, qui était rabougrie, ressentimentale, restauratrice, enfin défensive. Non, il dit « j'ai reçu un brevet de God ». Ah, c'est quoi ça, un brevet ? Et God alors lui donne des privilèges. Eh bien, le privilégié, selon qu'il fera tel ou tel geste, par exemple avec sa bague qui est ici, qu'il la mouillera un peu de salive, une femme va tomber amoureuse de lui. Mais s'il la retire un peu, ça sera simplement de la bienveillance. Après quoi, il aura des tas de possibilités. Il pourra tuer quelqu'un, pas s'il lui a parlé plus de 2 fois. Mais enfin, il pourra tuer qui il veut. Il pourra se changer en animal. Il pourra voyager à une allure considérable, être la mouche sur un cheval. Bon, c'est un texte des Mille et une Nuits, si vous préférez. C'est un texte de magie, hein, qu'il a conservé très, et qui n'a été connu que récemment. Si on lit ces privilèges, on entre dans ce qu'il y a de plus intéressant dans les romans de Stendhal, notamment dans La Chartreuse de Parme, c'est-à-dire le côté cryptique qu'il a pratiqué à haute dose. Pourquoi ? Parce qu'il était surveillé tout le temps. Son amour avec Mathilde à Milan, par exemple, il ne faut pas oublier les circonstances. Il est considéré comme un carbonaro, un Français, porteur de révolution, donc par les Autrichiens.
Donc elle va s'en défier, d'ailleurs, elle va s'en méfier tout au long.
Elle va s'en défier, d'autant plus qu'il ne comprend pas très bien la situation. Le goût de Stendhal le porte. Bah, sa mère est morte lorsqu'il avait 7 ans. Il recherche cet amour incestueux toute sa vie. C'est une femme qui deviendrait en quelque sorte sa mère. Elle a déjà 2 enfants, elle ne va pas se charger d'un 3e, d'autant plus qu'il n'a pas le suffrage à vue. Il se trouve laid, elle n'est pas tout à fait disposée à ça. Puis la police est là. Bon, il ne se rend pas compte qu'il dérange en quelque sorte, parce qu'elle a été beaucoup interrogée par la police. Donc vous voyez, c'est ce climat de surveillance. Pour échapper à la surveillance, il est consul de France, il se fait interroger. Pour échapper à la surveillance, il va commencer à crypter, à prendre des pseudonymes. Et ça, c'est passionnant dans la vie de Stendhal, parce que vous avez dans La Chartreuse de Parme cette scène inoubliable où vous avez sa tante, la Sanseverina, fameuse Jean, qui commence à lui faire. Il est en prison, Fabrice, là, dans sa tour. Mm-hmm. Et alors, il y a Clélia dans sa volière. Voilà. Et alors, et au bout d'un certain temps, il commence à voir, on parle de le faire exécuter quand même. Hein. Et il voit une lumière qui s'allume comme ça au loin. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une fois, deux fois, trois fois. Et ce sont des messages de Gina. Et le premier, c'est Gina. T'aimes, et moi aussi je t'aime, etc. etc. Ah, qu'est-ce qu'ils n'auraient pas pu faire ensemble. Mais enfin, Stendhal est
descend. Un autre roman.
Il ne veut pas qu'un neveu fasse des choses avec sa tante. Il a tort.
Manu Farine.
Alors, il y a un autre texte qui fonctionne comme point d'appui, qui est Souvenir d'égotisme. Hein, d'ailleurs, le personnage principal a écrit un essai sur ce texte-là.
C'est Bilac, oui, qui a écrit.
Voilà, qui revient dans le roman. Oui. Et plus particulièrement, une note qui revient à 3 reprises dans le texte, qui est 20 juin 1832, 15 pages en une heure. Et qui est une note qui fait, au fond, allusion à la vitesse d'écriture. Là, on en parlait déjà tout à l'heure, à la vitesse d'écriture de Stendhal, qui écrit d'ailleurs ses Souvenirs d'égotisme en 3 semaines. Qu'est-ce que ça dit, cette vitesse-là, de son rapport à la littérature, Philippe Solers ?
Et de votre propre rapport à la vitesse, puisque manifestement, cette note revient hanter le texte perpétuellement.
La vitesse, écoutez, il y a des gens lents, il y a des gens vite.
Oui, mais ça, c'est... d'accord.
Et donc, il y a des chefs-d'œuvre lents. Mais il y a des chefs-d'œuvre vite. Moi, la vitesse m'intéresse beaucoup. C'est une phrase célèbre du jésuite Balthazar Gracian où il dit « Vite et bien, deux fois bien ». Bon, voilà. Donc, lent et lourd, deux fois lourd, si vous préférez. Donc, voilà. La vitesse chez Stendhal est absolument évidente. Il improvise constamment et son écriture, sa graphie est tellement mauvaise qu'il va dicter. La Chartreuse de Parme a été dictée. Hein, c'est donc, il reprend oralement tout ce qu'il a pu griffonner. Et ça donne, en un mois et demi, enfermé rue Caumartin, il s'enferme, et ça donne ce chef-d'œuvre invraisemblable qui part un peu dans tous les sens. Mais on ne comprend pas comment il a pu aller aussi vite. De ce point de vue, les compositeurs qui sont atteints d'une vitesse considérable, c'est Mozart, par exemple. Si vous considérez que Mozart, dans des difficultés incroyables, fait, par exemple, Così fan tutte, il était vraiment dans une détresse profonde, financière, morale, conjugale, en fait, tout ce que vous voulez. Eh bien, écrire un opéra qui scintille de gaieté, de jeunesse, d'ironie, alors que vous êtes vraiment dans un trou, ça, c'est à peu près le même esprit. Stendhal et Mozart. D'ailleurs, sur sa tombe, il a aimé Cimarosa, il a découvert en Italie Mozart et Shakespeare. C'est la rapidité même, Mozart, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. Les 5 dernières années de la vie de Mozart, on ne comprend pas comment il a pu faire tout ça, c'est-à-dire tous ses opéras. Voilà. Donc la vitesse, peut-être, mais il n'y a pas que la vitesse. Moi, je ne suis pas très partisan de Wagner, hein, pour vous dire les choses de façon très nette. Sûrement pas. La revue wagnérienne a beaucoup infecté la fin du 19e siècle, mais passons. Stendhal, c'est le contraire. Hein. Voilà, ce qu'il aime, c'est Mozart.
Renaud Capuçon, quelle serait la figure de votre panthéon littéraire ?
Sachant que vous avez déjà établi des liens entre musique et littérature, puisque dans votre festival Les Rencontres Artistiques de Bel Air, il y avait l'année dernière au programme Au Prodigue, en hommage à Philippe Jacoté, par exemple.
Oui, j'aime beaucoup Philippe Jacoté. Pour moi, c'est un des grands, grands poètes d'aujourd'hui. Je cite un peu toujours le même, parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup aidé quand j'étais plus jeune. C'est Paul Éluard, qui est pour moi un poète que j'adore et que je continue d'aimer. Mais je suis quelqu'un qui picore beaucoup, qui lit beaucoup de choses très différentes.
Le texte de Philippe Solers, par exemple.
Le prochain.
Il va s'y mettre, il va s'y mettre.
Absolument. mais je pense que Franck est quelqu'un qui lit de façon beaucoup plus régulière que moi. Moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup dans mon temps. Je lis beaucoup ce qui se passe dans la presse. J'aime beaucoup être dans mon temps. Et autrement, je lis beaucoup de biographies, je lis des choses extrêmement diverses. Et s'il y avait un auteur à citer, ça serait Éluard. Mais c'est, voilà, c'est maintenant, dans deux ans, ça sera autre chose.
Alors, retour sur Stendhal, parce qu'en fait, on sait que vous aimez Stendhal, on sait que vous aviez, par exemple, ouvert le roman La Fête à Venise en 91 avec lui. Et pour autant, vu ce que vous dites sur le 19e siècle, on se méfie toujours de cette vision que vous aviez de Stendhal. Et en fait, on croit comprendre que votre Stendhal serait plutôt dans le prolongement du 18e siècle plutôt que profondément 19e-iste.
Bien sûr, il suffit de le lire.
Et pour quelle raison, par exemple ? Parce que je vous donne juste une hypothèse, celle de Richard Millet, qui a écrit L'Enfer du roman, et qui a pas mal de goûts en commun avec vous, notamment autour de La Chartreuse de Parme et autour de Stendhal. Il se pose la question, il dit, y a-t-il un roman heureux ? On pense irrésistiblement à La Chartreuse de Parme. Et il explique « La primauté accordée par Stendhal à l'amour, donc à la vie sur les livres, le classe dans le XVIIIe siècle. La rencontre avec Laclos et lui à Milan en 1801 n'est pas dénuée de symbolique. » Vous Bien serez sûr. Plutôt donc dans cet angle-là.
Tout à fait. Il y a quelqu'un qui s'en est rendu compte d'une façon tout à fait étonnante. C'est Nietzsche, tout simplement, qui découvre dans Stendhal un précurseur, quelqu'un qui est vraiment, vraiment avec lui. Et à ce moment-là, il dit, voilà, je cite Stendhal, mais personne ne le connaît et tout le monde me demande d'épeler son nom. Et en effet, si vous n'aviez pas eu ce geste d'une générosité folle qui a été le grand article de Balzac sur La Chartreuse de Parme, il n'y avait pas un article, rien, personne ne mouffetait.
Exactement, il pointe d'ailleurs l'absence totale de papier et de lecteurs de
Stendhal. Il ne fréquentait pas Stendhal, il s'en allait, il n'était pas là, il partait en Italie. Donc ça ne l'intéressait pas. La vie littéraire, au sens pénible qu'a ce mot, notamment en France, où 600 romans paraissent tous les ans, donc à peine 3 ou 4 vont survivre, ce n'est pas du tout ça. Il y a en effet, de plus en plus chez Stendhal, il dit comment est-ce que ce pays, la France, cette grande nation, comme on disait à l'époque, comment a-t-elle pu devenir aussi triste, aussi gaie, aussi peu gaie, qu'on a perdu la gaieté, les femmes ne sont plus à la mode, on s'ennuie, la restauration est là, le parti des voix a repris le pouvoir, la banque et le ciel levent, admirable livre sur la corruption qui commence à gagner déjà. Donc pensez à Stendhal devant la crise financière mondiale. Il aurait des choses passionnantes à dire.
Est-ce que c'est pour aussi son inachèvement que vous aimez Stendhal ?
Pardon ?
Est-ce que c'est aussi pour son inachèvement, l'esthétique de l'inachevé chez Stendhal ?
Il s'est expliqué là-dessus. Je crois que même j'insiste un peu là-dessus. Il a compris qu'il était rejoint, dépassé par l'actualité. C'était devenu tellement autre chose. La société est tellement en train de changer. C'est le personnage du père Leven, le banquier, là, il est très, très important. Les personnages masculins de Stendhal, c'est-à-dire... C'est Fabrice. Regardez Sartre.
Sartre que vous citez d'ailleurs, vous dites un lecteur inattendu de Stendhal.
Eh ben, j'ai été très surpris en relisant les carnets de la Drôle de Guerre qui sont un
et pourquoi,
très grand livre.
Pourquoi Dieu Sartre n'aurait-il pas dû lire ou n'aurait-il pas pu lire Stendhal ?
Si, il l'a lu.
Mais il l'a lu justement, mais vous en êtes très surpris.
Je suis surpris par l'enthousiasme que Sartre. J'ai été surpris par l'autocritique que Sartre fait à ce moment-là. Il dit,
qu'il n'est rien à côté de
Stendhal. Maintenant, je suis prisonnier, je me rase tous les matins pour imiter Stendhal, moi si négligé d'habitude, je me rase tous les matins pour imiter Stendhal pendant la campagne de Russie. Voilà. Alors, bon, d'accord. Après ça, j'ai relu avec. C'est l'admirable 60 premières pages de La Chartreuse de Parme. Il faut dire qu'elles sont particulièrement réussies. Bon. Mais il est dans un roman qui s'appelle L'Âge de raison. Et il a des difficultés avec son roman. Et il dit, je ne comprends pas, mes personnages sont décapités, ils sont sinistres. Il y a un pullulement sinistre. Alors que Fabrice, quels que soient les malheurs qui lui arrivent, Dieu sait ce qui lui arrive, est toujours viable, joyeux, plein d'espoir. Donc c'est le bonheur que vous ressentez en lisant Stendhal. Et Sartre est d'une honnêteté scrupuleuse. Il n'est pas du tout heureux de ce qu'il est en train d'écrire. Alors que Stendhal, on le sent, est heureux d'écrire son bonheur.
Alors Stendhal permet aussi à Philippe Sauvers, narrateur et romancier, de parler d'autre chose, et notamment du roman contemporain, Manu Farine.
Oui, parce que vous le disiez tout à l'heure, hein, Stendhal ne fréquente pas, Stendhal hors du monde littéraire, et vous le citez, hein, vous dites, quand Stendhal écrit, j'écris en langue française mais non pas certes en littérature française. Dieu me préserve d'avoir rien de commun avec les littérateurs estimés d'aujourd'hui. Alors c'est vrai que le roman est quand même beaucoup construit par effet de miroir et effet de perspective entre Stendhal et vous, entre le siècle de Stendhal et le nôtre. Jusqu'où cette phrase-là pourrait-elle être actualisée, Philippe Solers ?
Oui, je crois qu'il y a quelqu'un que Stendhal respecte profondément, c'est Balzac. D'ailleurs, Balzac le reconnaît. Bon, c'est pas mal déjà. Vous savez, Balzac, Stendhal, vous passez d'excellentes vacances. Cela dit, je crois qu'en effet, tous ces novateurs qu'on prétend désormais faire partie de la bibliothèque, ce sont des stars de la culture, etc. Je crois qu'ils ont tous eu des tas de difficultés à s'imposer. Tout se passe, la société est tellement menteuse qu'elle fait comme si on attendait la création. Mais ce n'est pas vrai. Flaubert n'a jamais été attendu. Personne, Proust non plus. Enfin, ça a toujours été un combat. La littérature, c'est la guerre. La poésie, c'est la guerre. Donc, c'est vraiment une guerre. Et on la mène, chacun, avec ses forces, contre une opacité sociale. Le gros animal, comme dit Simone Veil, qui s'en fout éperdument que vous écriviez ou que vous n'écriviez pas des livres, etc. C'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Vous allez au numérique, à tout ça. Bon. Mais il ne faut pas perdre de vue que la faculté de réfléchir et de mémoriser perd de la force. Et que ça sera pareil pour la musique, la peinture, et tout le reste. Et tout ce qui est l'art. Et l'art, c'est l'amour, c'est la même chose, vous comprenez ?
Alors, vous vous livrez à une défense, et non, enfin une défense, non, plutôt une sorte de portrait à charge. Non, de portrait à charge contre une certaine forme du roman. Et à propos d'ailleurs de la forme de votre roman, vous parlez de plus que roman, une forme qui viendrait vexer le roman traditionnel. Or, le roman, manifestement, que ce soit vous ou Richard Migné, c'est quelque chose contre laquelle vous allez lutter. Et ce plus que roman s'appuie toujours chez vous, souvent, mais le plus radicalement possible, sur des effets de citation qui viennent surprendre, retarder en permanence la fiction. Des citations qui ont trois fonctions chez vous, vous l'avez souvent dit, comme preuve de ce que vous avancez, ce qu'on pouvait lire ce matin dans Libération, quelque chose de l'ordre de la démonstration, comme résistance à la fiction, puisque chaque fois, l'histoire d'amour entre Solers et Mina est retardée par ces citations de...
Elle est intensifiée,
si vous voulez, et aussi comme résistance à l'oubli. Moi, je voulais savoir à quel moment exactement ces constructions se sont imposées dans votre littérature. Ce phénomène de la citation est apparu. Est-ce que c'est apparu au moment des années 80 avec Femmes ou...
C'est beaucoup plus tôt, c'est quand on m'a emmené quand j'étais lycéen. On m'a emmené voir la tour de Montaigne. Et je suis resté très 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 ébloui que ce type se soit retiré dans sa tour, comme vous savez, et commencé à écrire des citations latines et grecques sur ses poutres, tellement il était inquiet de ce qui se passait, à savoir que ça pouvait disparaître, l'Antiquité. Alors ça m'a fait réfléchir. Bon, je ne vous ai pas dit qu'à ce moment-là, j'ai décidé d'écrire avec le passé vivant pour le revivifier sans arrêt, parce que je crois que c'est ça qui est en danger aujourd'hui. C'est l'oubli, c'est l'éradication du passé, c'est le fait de vouloir... On vient d'arriver, ben on a raison, etc. La technique répond à tout, nous n'avons pas besoin de mémoire. Je crois qu'au contraire, la mémoire est une force d'inspiration constante. Donc, je crois que les écrivains sont en danger. C'est pour ça que je parle de poésie beaucoup. Je pense qu'un livre, ça s'entend, ça s'écoute. C'est comme de la musique, en fait. C'est là, on voit si le type sait faire ou pas, s'il a le... Vous savez, les gens ouvrent. Le roman, c'est le roman anglo-saxon maintenant, en majorité, 95%. Bon. Les gens ouvrent un livre pour voir un film, en fait, hein, story, etc. Ils voient un film, il est bon, plus ou moins bon, pas forcément, et puis ils l'oublient. Mais ils ne retiennent pas les sons, les mots. Hein. Alors à ce moment-là, ce n'est pas la peine de parler des écrivains. Ils ont disparu et on voit des films.
On parle trop de disparition, Manon Farina.
Ah oui, on parlait d'épitaphe hein, tout à l'heure et de l'enterrement de Stendhal. Donc, épitaphe rédigée en italien, et donc effectivement, où il écrivait Henri Bayle, il a vécu, il a écrit et il a aimé.
Vice scrisse à bon.
Vous le dites mieux que moi, un commentaire sur cette trahison de langue.
C'est très drôle parce que les mots sont disposés par lui d'une façon tout à fait. C'est une demande. Vice scrisse à bon. Il a vécu, il a écrit, il a aimé, dans cet ordre. Son cousin a trouvé que cette formule probablement peu convenable par rapport à l'usage courant qu'on fait de la vie. Et il a fait imprimer, vous n'avez qu'à aller au cimetière Montmartre aujourd'hui même, vous verrez la tombe de Stendhal, c'est une honte que l'État français n'ait pas rétabli la vraie citation. Il a écrit, il a vécu, il a aimé, il a écrit. Et comme si on écrivait une fois qu'on a vécu, mais vous comprenez, c'est normal, vous n'avez pas... Et alors c'est un contresens majeur dans la vie de Stendhal. C'est parce qu'il écrit que les choses se dénouent, interviennent, et que des rencontres se produisent, que l'amour peut exister, voilà.
Et votre épitaphe, ça serait... Vous y avez pensé?
Oui, oui. Ah mais moi c'est autre chose. C'est écrivain, oui. Vénitien de Bordeaux.